capo alla source.
Caroline.
Et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Anti-Histo Amétropique, épisode qui sera consacré à la suite et à la fin de notre thème sur l'ère Meiji au Japon. Pour rappel, l'ère Meiji débute en 1868 et se termine en 1912. C'est l'époque où le Japon sort de la féodalité et de son repli sur soi à coups de canon occidental. Le Japon restaure le pouvoir impérial, refusant de devenir une colonie et perdre sa souveraineté. Le Japon va ensuite tout faire pour attraper l'Occident. Il s'industrialise à une vitesse folle et va très rapidement devenir la plus grande puissance économique du continent asiatique. Il se dote également d'une constitution et d'une administration efficace. Mais il va surtout en parallèle développer une puissante armée moderne dont le but premier était la défense de sa souveraineté et décourager toute volonté occidentale d'invasion. Seulement voilà, commençons notre épisode en 1890. Il s'est passé 22 ans depuis la restauration Meiji et le pays s'est déjà grandement métamorphosé. Il devient une puissance régionale, commençant à faire de l'ombre à son gigantesque et puissant voisin, la Chine. La Chine était jusqu'alors la seule puissance asiatique d'intérêt pour les Occidentaux. Comme nous l'avions vu dans le précédent épisode, après deux guerres, ils ont réussi à lui faire ouvrir ses frontières et ils occupent certains de ses ports comme Hong Kong. Mais ils ne colonisent pas la Chine. Ils l'influencent certes, mais se savent bien incapables de soumettre un pays si vaste et avec une si forte histoire. Donc, à la suite de ces défaites, on pourrait se dire que la Chine a, comme le Japon, retenu les leçons et commencé elle aussi à s'industrialiser, moderniser ses institutions et créer une puissante armée moderne. C'est ce qui est en effet en partie arrivé avec ce que l'on appelle le mouvement d'auto-renforcement, qui lui a commencé en 1861, donc à peu de choses près en même temps que le Japon, on va dire 8 ans avant. Alors que le Japon avait choisi de réformer son système dans son ensemble, avec notamment une réforme sociale d'une ampleur sans précédent, avec la disparition des castes comme celle des samouraïs, la Chine, elle, choisit d'axer sa modernisation sur son armée et l'économie. Mais contrairement au Japon où tout va très vite, en Chine cette modernisation se fait plus lentement. Surtout au niveau de l'industrie, l'économie reste très agricole, avec des rendements médiocres et surtout, à cette époque, le pays s'oppose à l'établissement des chemins de fer. Cela est dû à l'immensité de son territoire, mais aussi à une lutte au sommet de l'État entre progressistes et conservateurs. Les provinces sont elles aussi divisées et sont gouvernées par d'anciens chefs militaires, chacun voulant moderniser sa région avec ses propres arsenaux. Petit à petit, les germes d'un éclatement prochain de la Chine commencent à apparaître. Revenons au Japon. En 20 ans, il s'est déjà bien modernisé et ne compte pas s'arrêter là. Le problème, et ça, vous avez sûrement dû l'apprendre en cours de géographie, c'est que le Japon ne possède que très peu de ressources en matières premières. Il est tributaire du commerce extérieur et de son importation. Or, on l'a vu, le Japon ne souhaite pas subir la moindre influence étrangère et donc le pays arrive à une conclusion. Si il souhaite être indépendant, il faut qu'il s'octroie des matières premières, et pour avoir ces matières premières, il faut de nouveaux territoires. Après tout, que font ces exemples occidentaux durant cette période? Ils colonisent, raison de plus de les copier donc. Être puissant à cette époque, ce n'est donc pas que montrer ses muscles avec son armée, c'est aussi avoir des colonies. prendre. Pas question d'empiéter encore sur les plates-bandes européennes. Le pays ne dispose pas encore de la force nécessaire. Le problème, c'est que presque toute l'Asie du Sud-Est est sous influence occidentale. La France occupe dans sa colonie d'Indochine les actuels Laos, Vietnam et Cambodge, pour, en partie, son caoutchouc. Le Royaume-Uni, la Birmanie, la Thaïlande et la Malaisie. Les Hollandais, l'Indonésie et ses puits de pétrole. Les Philippines sont encore sous occupation espagnole et, pour la petite histoire, passeront sous contrôle américain à la suite de la guerre hispano-américaine de 1898. Guerre qui permit notamment aux Américains de prendre Cuba. Ils y garderont une énorme influence jusqu'à l'arrivée d'un certain Fidel Castro. Bref, encore une fois, on s'aperçoit que dans l'histoire, tout est lié. Il ne reste donc pas grand-chose pour le Japon. Surtout qu'en plus, ces territoires sont considérés comme encore trop éloignés. On doit donc chercher plus près. La Corée. La Corée semble parfaite. En plus, il y a déjà un passif entre les deux pays. Bon oui, il est très vieux et date d'avant le shogunat Tokugawa. Pour rappel, le shogunat, c'est le régime de dictature militaire exercé par les samouraïs. Et les Tokugawa, c'est le clan qui a terminé la dernière unification du Japon et gardé le pouvoir jusqu'à l'ère Meiji dont nous sommes en train de parler. Donc, le Japon avait déjà tenté d'envahir la Corée entre 1592 et 1598. Invasion menée par l'un des unificateurs du Japon, Toyotomi Hideyoshi. Lors de cette guerre, la Corée était censée n'être qu'une étape avant l'invasion de la Chine, mais le roi de Corée lui avait refusé le passage, et ce qui devait être juste une traversée s'est transformé en invasion. Après une écrasante victoire sur terre, le Japon est défait par les Coréens sur les mers, et la Chine vient apporter son soutien à la Corée, qui était en fait un de ses états vassaux. C'est-à-dire que la Corée devait payer un tribut à la Chine et était d'une certaine façon sous sa responsabilité. En 1890, la Chine exerce un protectorat de fait sur la Corée. Pour le Japon, c'est inacceptable et des conflits plus petits ont lieu avec la Chine dès 1874 avec l'attaque japonaise de Formose, aujourd'hui appelée Taïwan. Mais tout s'accélère en 1894 quand une partie des paysans coréens se soulève, formant ainsi une armée rebelle et menaçant le pouvoir fantoche coréen. Depuis 1894 et la convention de Tenstin, les Chinois et les Japonais doivent demander l'accord à l'autre avant d'envoyer des troupes en Corée. Or, pour mater la révolte, les Chinois informent le Japon qu'il y envoie des troupes. En réponse, le Japon fait débarquer des soldats avec la ferme intention de s'établir en Corée. À la suite de négociations ratées, les Japonais rassemblent une flotte puissante et les 28 et 29 juillet 1894, les forces s'affrontent. C'est une victoire japonaise. Le 1er août, la guerre est officiellement déclarée et se termine par l'invasion japonaise de la Corée, d'une partie de la Mandchourie, de Taïwan, des îles Pescadores et de la destruction de la marine chinoise. Seuls deux navires de fabrication allemande survécurent. La guerre se termine donc par une éclatante victoire japonaise le 17 avril 1895. Elle occupe tous les territoires occupés, excepté la Mandchourie qui ne se limitera plus qu'à la péninsule de Liaodong, et la Corée qui va rentrer sous sa sphère d'influence en signant un traité d'alliance militaire. Mais en 1905, elle devient un protectorat, puis en 1910, une province japonaise. Tous ces territoires seront sous la domination japonaise jusqu'en 1945. Le Japon devient la grande puissance régionale, tandis que la Chine va, malgré un nouveau revers conduisant inexorablement vers l'implosion, enfin commencer son développement. L'impérialisme japonais ne fait plus de doute aux yeux de tous. Il se voit donc limité par les Occidentaux, qui le considèrent désormais comme une possible menace. Avec l'occupation d'une portion de la Mandchourie, le Japon a une tête de pont pour envahir plus de territoires chinois. Ainsi, le pays entre en concurrence avec un autre empire, l'Empire russe, qui profite de la défaite chinoise pour s'octroyer une grande partie de la Mandchourie. La Russie devient donc le nouveau rival régional du Japon. nous nous étions arrêtés sur l'expansionnisme japonais se confrontant à un nouvel adversaire, l'impérialisme russe. Il faut savoir que depuis le début de la seconde moitié du 19e siècle, la Russie participe avec les autres puissances occidentales à la course à l'empire colonial. Contrairement aux autres États, elle opte pour une colonisation, des annexions de terres proches de son immense territoire. La Russie prône ce que l'on appelle le panslavisme, c'est-à-dire l'idée que la Russie a pour devoir de libérer les peuples slaves sous domination ottomane et de les rassembler en une confédération alliée. Dans cette idée, elle va s'immiscer dans presque tous les conflits balkaniques, se mettant à dos l'Empire ottoman mais aussi l'Empire austro-hongrois qui convoite la région. L'expansionnisme russe se heurte aussi aux occidentaux, comme avec la guerre de Crimée de 1853 à 1856, où la France et la Grande-Bretagne se sont alliés aux Ottomans pour repousser les Russes. Mais ce n'est qu'un des exemples. Le dernier en date n'est autre que la Première Guerre mondiale. Plus à l'est, elle se dispute avec la Grande-Bretagne, dans le cadre de ce qu'on va appeler le Grand Jeu, le contrôle de l'Asie centrale. C'est cette rivalité qui va conduire à la création d'un état tampon entre les deux empires, l'Afghanistan. La Russie souhaite étendre son influence jusqu'à l'océan Indien, dont il rêve d'avoir un jour un accès. Seulement, le Royaume-Uni contrôle le passage avec sa colonie joyau, l'Inde. Après un demi-siècle de guerre dans la région, la Russie touche la Perse et se rapproche de son rêve. Vous vous en doutez, les Anglais ne laisseront pas faire. Enfin, et c'est ce qui va le plus nous intéresser, c'est l'appétit russe en Extrême-Orient. Le pays profite des défaites chinoises, des guerres de l'opium pour gagner des territoires aux dépens des perdants. Elle occupe donc officiellement la rive gauche de l'Amour et d'autres possessions en Chine. Mais ça ne s'arrête pas là. Après la victoire japonaise sur la Chine, la Russie obtient la construction du chemin de fer de l'Est chinois qui doit relier la ville russe de Chita au port de Vladivostok, en traversant la Mandchourie. Ensuite, l'Empire s'engage dans la révolte des Boxers. Cette révolte est une nouvelle guerre ayant lieu du 2 novembre 1899 au 7 septembre 1901. Elle opposait une armée de volontaires chinois, appelée Boxers, qui refusait les réformes de modernisation, l'influence grandissante des colons, la perte de prestige chinois, mais luttait aussi contre le pouvoir féodal en place. Pourtant, il va s'allier à l'Empire chinois et le mouvement finira par lutter essentiellement contre les Occidentaux. Cette révolte fut réprimée par pas moins de 7 nations occidentales, les plus puissantes de l'époque, à savoir l'Autriche-Hongrie, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Un autre pays faisait partie de cette coalition, mais celui-ci était asiatique, le Japon. Le Japon entre donc dans le cercle fermé des puissances et fait la guerre à leur côté. Vous l'avez deviné, je pense, mais la Chine est battue. Ainsi, l'Empire russe occupe la Mandchourie. Et voilà, la Russie se trouve en contact direct avec les zones sous influence japonaise éléguées par la guerre sino-japonaise de 1895. Avant cela, le Japon et la Russie avaient toujours réussi à trouver un accord, comme en 1855 et 1875, avec le contrôle russe de l'île de Sakhaline en échange des îles Kouriles. Mais là, les Russes souhaitent récupérer la Corée. Le Japon s'y refuse, estimant qu'elle lui est dévolue après sa victoire sur la Chine. En plus, les Japonais, qui avaient pourtant grandement participé à la guerre contre les Boxers, estiment avoir été floués comparé à la Russie. En effet, ces derniers contrôlent dorénavant la Mandchourie, alors que 10 ans plus tôt, les Japonais l'avaient en partie conquise et avaient été obligés de se retirer sous la pression occidentale. C'est décidé, il faudra donc en découdre avec ce géant mondial pour pouvoir être enfin accepté par les autres grandes nations. Et c'est à ce moment que le Japon va recevoir un soutien logistique de la part de l'Angleterre. Et oui, rappelez-vous, un peu plus tôt, on avait appris que les Anglais souhaitaient limiter l'influence russe pour préserver ses possessions d'Asie centrale. L'Angleterre va donc produire dans ses chantiers navals les navires les plus puissants et modernes de la flotte japonaise. Cette flotte comprendra aussi des navires conçus par l'ingénieur naval français Louis-Émile Bertin. Le tout équipé d'un armement ultra moderne et dirigé par un équipage surentraîné. On ne parle donc pas de vieux rafio, mais déjà de la plus puissante flotte d'Asie. Les Japonais savent bien que la Russie pèse plus lourd qu'eux et décident donc de tout miser sur des attaques spectaculaires qui doivent emporter la décision dès le début du conflit. Et c'est ce qui arriva. Deux puissants coups mirent KO l'ogre russe. Après avoir adressé un ultimatum à la Russie, le Japon attaque par surprise l'escadre naval russe de Port Arthur. Le but étant de priver la Russie d'un éventuel soutien maritime. En même temps, le Japon occupe militairement la Corée, une partie de la Mandchourie et assiège Port Arthur. Les Russes envoient une armée pour briser l'encerclement. les combats tournent à la boucherie, mais les Japonais tiennent bon. Comprenant qu'ils n'arriveront pas à briser le siège par la voie terrestre, les Russes décidèrent d'envoyer leur puissante flotte de la Baltique, soit 45 navires pour briser le siège. Mais contrairement aux Japonais, ces matelots ne sont que des paysans trop hâtivement formés. Ils n'ont aucune expérience de la bataille, ce qui fait qu'en chemin, ils tireront au canon sur de nombreux pêcheurs pensant qu'il s'agissait de Japonais. L'Angleterre fera tout pour les retarder. De plus, ne possédant pas de port sur la route, la flotte a du mal à se ravitailler. Et donc elle n'arriva pas à temps. Le Japon occupa Port Arthur et vainquirent les Russes à Mukden le 10 mars 1905 au prix de 70 000 morts contre 60 000 pertes russes. C'est alors que la flotte russe arriva de son long voyage et se fit massacrer par les Japonais lors de la bataille de Tsushima du 27 au 28 mai 1905. Seuls 6 navires purent s'enfuir. Sans compter qu'au même moment en Russie, le pays est secoué par une révolution. Le tsar doit donc faire des concessions. C'est ainsi que le Japon et la Russie acceptèrent la médiation américaine et signèrent le traité de Portsmouth le 5 septembre 1905. La Russie rend les territoires de Mandchourie à la Chine et le Japon occupe le sud de Sakhalin, la péninsule de Yadong avec Port Arthur et le réseau ferré de Mandchourie. Mais surtout, le contrôle japonais sur la péninsule coréenne est définitivement reconnu. Cependant, les Japonais qui durent accepter ces conditions au vu de leur situation financière extrêmement difficile, pour ne pas dire catastrophique, acceptèrent mal que la Mandchourie échappe une nouvelle fois à leur contrôle. Mais ce contrôle du chemin de fer sera le prétexte à l'invasion de la Mandchourie en 1931. Mais ça, c'est une autre histoire. Le Japon est donc la première nation non européenne à entrer dans le cercle des grandes puissances et devient le juge de paix dans la région. À l'issue de l'ère Meiji, le pays ne compte pas arrêter son expansion, ce qui va conduire aux terribles événements de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans 2 semaines, on repart sur un nouveau thème. D'ici là, si vous avez des textes, des recherches sur l'histoire du Limousin ou d'ailleurs, je suis toujours preneur. Je serai ravi de les étudier et d'en faire un épisode. Pour cela, vous pouvez me contacter à martin@radiomassivière.com. Bonne journée à vous et à la prochaine dans Anti-Histo-Amétropique.
Ah, mais trop.